Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. RMC, l'interview.
Apolline de Malherbe.
8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Bompard.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin parce que ça y est, vous entrez à l'Assemblée. Vous avez été élu hier soir, député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône et très bien élu même, 56% des voix. La NUPES...
Non, plus, vous avez
plus
de mauvais chiffres. C'est 74%.
Pardon, pourquoi 74%?
Oui.
Eh bien alors, franchement, je le disais, vous avez été très bien élu. Alors après, il y a eu quand même une grosse abstention, mais on y reviendra très, très largement. Vous êtes, au fond, la tête pensante. Vous avez été présentée comme telle de la NUPES, et grand bien vous en a fait, puisqu'elle est aujourd'hui la première force d'opposition. Et le 6 juin dernier, vous disiez à l'attention d'Emmanuel Macron, si, bonhomme, tu vas le nommer. Et c'était à propos de Jean-Luc Mélenchon, sauf que non, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre.
Je disais à l'époque, bien évidemment, que dans l'hypothèse où nous aurions une majorité de députés issus de la nouvelle Union populaire écologique et sociale à l'Assemblée nationale, alors le président de la République aurait été contraint de nommer Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Vous l'avez dit, c'est pas aujourd'hui les résultats des élections législatives d'hier, mais ce qui est important quand même hier, c'est que si nous avons effectivement pas la majorité, personne ne l'a. Et donc le président de la République reçoit une défaite qui est une défaite cinglante. C'est la première fois dans l'histoire que un président de la République élu, quelques semaines plus tard, il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale et il a moins de 250 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Donc l'enseignement principal d'hier, c'est d'abord quand même la défaite sérieuse, sévère d'Emmanuel Macron qui démontre qu'il n'y a pas d'adhésion à son programme.
Forcément une petite déception quand même, j'imagine.
Non, ça dépend par rapport à quoi on regarde. Vous savez, il y a 9 mois...
Par rapport à votre slogan,
oui,
Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre.
Oui, mais écoutez, il y a 9 mois, si on s'était réunis ici sur les plateaux de télévision, on disait la gauche va être balayée, elle va faire moins de 10% à l'élection présidentielle, il n'y aura plus un seul député de gauche à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on arrive à faire rentrer autour de 150, on va voir exactement... combien de députés, autour de 150 députés à l'Assemblée nationale. Alors c'est clair, c'est pas suffisant. Nous, on souhaitait avoir la majorité, je le conteste pas. Et donc, de ce point de vue-là, on n'a pas rempli, on n'a pas réussi cet objectif, ça c'est vrai. Mais néanmoins, il me semble qu'on a créé les conditions pour que cette formation politique soit la première force d'opposition face à Emmanuel Macron et qu'elle puisse préparer, j'espère, les victoires
de
demain.
On va rentrer dans le détail et dans le nombre de députés, des groupes, parce que tout ça a en fait des conséquences extrêmement concrètes sur le fonctionnement du pays. Mais vous disiez, il n'y a pas de majorité ce matin. En fait, personne n'a de majorité. Est-ce que vous considérez, vous aussi, que la France, telle qu'elle est aujourd'hui, est finalement assez peu gouvernable, voire ingouvernable?
Manifestement, c'est le cas, puisque le président de la République, sa coalition, n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et si on avait pu à un moment entendre qu'il y avait une possibilité de majorité en ajoutant aux députés de La République En Marche les députés des Républicains, j'ai entendu les dirigeants des Républicains dire clairement qu'ils allaient s'inscrire dans l'opposition. Donc manifestement, personne n'aura de majorité pour gouverner
ce
pays.
Vous vous en réjouissez? Un pays bloqué, vous vous en réjouissez?
Moi, je me réjouis de la défaite du président de la République, ça c'est clair. Parce que, et c'est le résultat, je crois, du deuxième tour de l'élection présidentielle, où il l'a gagné, c'est vrai, mais il a gagné sans adhésion à son projet. Et donc, ce qui s'exprime dans le résultat des élections législatives, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'adhésion à son projet. Maintenant, moi, je ne me réjouis pas parce que je me serais réjoui si on l'avait emporté. Encore une fois, c'était notre objectif. Donc, on va voir maintenant comment les choses vont
avancer.
Et on
va voir aussi comment vous êtes prêts à discuter, voire faire des alliances éventuelles. On va rentrer un peu dans ce détail-là. D'abord, le nombre de députés dans la France Insoumise, dans le groupe La France Insoumise, cette question n'est pas du tout anodine puisque vous avez le Rassemblement National qui a obtenu 89 députés. Techniquement, au moment où on se parle, ils ont donc 5 députés de plus que vous. Le groupe, le premier groupe d'opposition, ce n'est plus vous, c'est le Rassemblement National.
On va voir. D'abord, les groupes ne sont pas encore finalisés dans leur constitution. Il y a un certain nombre d'élus, notamment élus sur les départements et territoires d'outre-mer, qui peut-être pour certains siégeront avec les députés de la France Insoumise. Ça, on va voir dans les prochains jours comment les choses vont vont se conclure. Néanmoins, en tout état de cause, la première formation d'opposition aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, puisqu'on a constitué un intergroupe, puisqu'on
c'est
est d'accord
sur... Il faut quand même repréciser tout ça, parce qu'on comprend pas.
Un intergroupe, pour celles et ceux qui nous écoutent, bah, il y aura différents groupes, puisqu'on peut avoir différents groupes. Il y aura un groupe autour de la France Insoumise. Et ensuite, on a un intergroupe, c'est-à-dire qu'on se réunira chaque semaine pour faire avancer ensemble les points du programme sur lesquels on s'est mis d'accord. Puisque contrairement à ce que disaient un certain nombre de commentateurs et d'opposants dans cette élection, nous sommes d'accord sur 650 mesures. Nous nous étions mis d'accord sur un programme partagé de gouvernement. Nous sommes d'accord sur l'essentiel.
J'essaie de comprendre le fonctionnement, parce que tout ça est très visuel. Hein, finalement, c'est l'Assemblée avec ses couleurs, avec ses groupes, avec ses sous-groupes, donc, et ses intergroupes désormais. Ça veut dire qu'il va y avoir une sorte de pyramide avec un chef de groupe NUPES et ensuite des sous-chefs des différents groupes.
Bah, un chef, je sais pas, mais il y aura une structure de coordination des différents groupes.
Vous pourriez diriger le groupe NUPES.
Mais je pense pas qu'il y aura un dirigeant du groupe NUPES.
Il n'y aura pas une incarnation du groupe NUPES.
Non, il y aura les différents présidents des différents groupes, des composantes de la NUP qui vont se réunir régulièrement. Mais ça n'a rien de très surprenant pour celles et ceux qui nous écoutent. C'est ce que faisait la majorité présidentielle dans la mandature précédente, puisqu'il y avait un groupe La République En Marche, un groupe Modem, un groupe Agir ou je ne sais quoi. Et ils essayaient d'agir ensemble. Bon, bah, ça va fonctionner de la même manière. Donc c'est pourquoi, en vérité, dans cette Assemblée nationale, il y aura le groupe autour du président de la République, et ensuite le premier groupe d'opposition, ce sera le groupe.
On descend un peu dans la cuisine
la...
là, mais c'est vrai que ça a des conséquences là encore très concrètes. La question de la présidence de la commission des finances, c'est extrêmement symbolique, mais pas que d'ailleurs, parce que ça donne aussi des pouvoirs très larges à celui qui l'obtient. Vous serez candidat, pas forcément vous d'ailleurs personnellement, j'en sais rien, mais peut-être oui.
Non. Ça sera enfin.
Mais en tout cas, votre groupe LFI. Candidatera pour obtenir la présidence de la commission.
Vous savez, l'habitude républicaine, c'est bon, il y a quelque chose qui est dans la Constitution, c'est que c'est une personne de l'opposition qui doit présider la commission des finances. Et l'habitude républicaine, c'est que pour faire respecter ça, la majorité ne participe pas au vote sur la désignation de la personne qui sera président de la commission des finances.
Enfin, elle est éparpillée quand même l'opposition.
Oui, mais
le RN aussi pourrait présenter.
Ils peuvent présenter un candidat. Mmh. Mais si nous avons un candidat commun soutenu par toutes les composantes de la NUP, et je crois que ce sera le cas, alors c'est cette personne qui sera normalement. Si la majorité respecte les habitudes républicaines, qui sera président de la commission des finances.
Vous en doutez ?
J'en doute, j'ai lu comme vous sans doute les éléments dans la presse et je vois qu'il y a sans doute une tentation d'une partie de la majorité de revenir sur ses habitudes. Je pense que ce serait un très mauvais signal envoyé au pays de commencer la mandature comme ça.
D'ailleurs, vous avez sous-entendu, j'y viens quand même, parce qu'il y a eu ces mots de Jean-Luc Mélenchon hier à la fin de son discours où il a dit « Pas un instant, nous ne renoncerons à être ceux qui gouvernent de ce pays, aucun tripotage, aucun arrangement ne sera accepté. » Il laisse entendre, il insinue qu'il y aurait une forme de complot ou de refus ou de tripatouillage.
Mais il n'a pas parlé de complot. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est que dès le soir de l'élection, on voit comment ça se nouer des discussions plus ou moins officielles avec les Républicains ou des membres des Républicains. Or, cette configuration, ce n'est pas celle qui a été présentée aux électrices et aux électeurs. Ils ne se sont pas présentés ensemble aux élections législatives. Et donc, effectivement, ça ressemble à une sorte d'accord de sous de table où on ne sait pas exactement quel est le programme qui va être défendu. Donc, du point de vue du respect de la parole des électrices et des électeurs...
C'est quand même un choix d'hier soir de jeter le doute sur la crédibilité, sur la parole, sur les chiffres.
Non,
même.
C'est le respect de la démocratie de dire que quand on s'est présenté avec un programme devant les électrices et les électeurs, le soir même de l'élection, on ne commence pas à faire des arrangements pour essayer de constituer une majorité qu'on n'a pas obtenue par le résultat des suffrages. Voilà, c'est, je crois, ce qu'a voulu dire Jean-Luc Mélenchon hier.
Donc c'était à l'adresse plutôt des Républicains en réalité qu'à l'adresse du ministère de l'Intérieur, par exemple, qui comptabilise les voix.
Ah oui, bien sûr. Après, que le ministère de l'Intérieur se soit livré à un certain nombre de tripatouillages dans cette élection, c'est une évidence. D'ailleurs, le Conseil d'État lui-même, puisque nous l'avions saisi, avait tapé sur la tête de M. Darmanin, qui ne voulait pas comptabiliser la NUP comme une formation politique à part entière. Et le Conseil d'État nous avait donné raison. Donc oui, clairement, le ministère de l'Intérieur a essayé d'organiser la comptabilité des résultats à sa guise dans cette élection. Bon, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, la NUP est la première formation politique en face d'Emmanuel Macron.
Alors essayons de nous projeter, essayons d'avancer dans les jours qui viennent. Il va y avoir le 5 juillet un rendez-vous ou très important, qui est le moment où il y a le discours de politique générale. Ça devrait être Elisabeth Borne, première ministre, qui va venir devant vous tous à l'Assemblée présenter son gouvernement et sa feuille de route. Est-ce que vous vous dites si ce jour-là, elle engage sa confiance? On la battra.
Bah clairement, elle aura pas nos voix. Enfin, écoutez, c'est une question de cohérence. On s'est défendu, on s'est battu dans cette élection législative comme étant une formation politique d'opposition. On va pas venir appuyer le gouvernement de Madame Borne, qui honnêtement, normalement, Madame Borne devrait partir. Le premier résultat de l'élection législative d'hier, c'est que le gouvernement tel qu'il a été constitué par Emmanuel Macron ne peut pas continuer à gouverner comme si de rien n'était et comme si on n'avait pas entendu le signal des électrices et des électeurs.
Vous appelez ce matin à la démission d'Elisabeth Borne et du gouvernement.
Bah, je crois que ce serait la logique politique du résultat des élections. Effectivement, elle n'a pas réussi à convaincre une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Donc clairement, c'est pas elle qui a la légitimité politique pour gouverner. Ça me paraît être une évidence. Et puisque on va regarder devant, mais je voudrais quand même dire sur le résultat des élections, qu'est-ce qui s'est produit ? Il s'est produit aussi qu'Emmanuel Macron a joué avec le feu pour essayer de contenir la progression de la nouvelle Union populaire écologique et sociale en ne prenant pas parti notamment dans les duels qui opposaient la NUP et le Rassemblement national et qui s'est brûlé. Je rappelle qu'il y avait 62 duels entre la nouvelle Union populaire et le Rassemblement national, que dans 62 duels, dans 55 d'entre eux, de ces 62 duels, le candidat de La République En Marche n'a pas appelé à battre le Rassemblement national. Alors pour des formations politiques qui nous donnaient des leçons de République pendant des mois, des semaines, qui, y compris pendant l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, nous cherchaient des noises.
Ça veut dire, Emmanuel Bompard, que vous considérez, au fond, que Emmanuel Macron a fait cette poussée
clairement,
du RN.
Clairement, il en est le responsable principal. Je pense qu'il l'a volontairement créé parce qu'il a voulu contenir notre progression et qu'il était inquiet de la possibilité que nous ayons une majorité à l'Assemblée nationale et que, en quelque sorte, la créature a échappé à son créateur.
Le RN est une créature.
Ah, je le crois, et c'est pas nouveau. D'ailleurs, ça fait depuis maintenant plusieurs années qu'à chaque élection, le président de la République essaye d'installer une forme de duel avec le Rassemblement National, en se disant, comme ça, au deuxième tour de l'élection, ça a été le cas à l'élection présidentielle, il y aura une sorte de barrage qui fait que dans tous les cas, même si je suis pas majoritaire dans le pays, je pourrais continuer à gouverner. Sauf qu'au bout d'un moment, il est prêt à son propre
piège. Vous avez d'ailleurs peut-être entendu dès hier soir certains ministres, Éric Dupond-Moretti, par exemple, sur RMC et BFM TV, qui lançaient une sorte d'appel aux députés du Rassemblement National à soutenir, alors notamment les budgets, qui sont le budget de la justice, il plaidait pour sa paroisse. Ça vous a choqué?
Bah clairement, mais il n'y a pas que ça qui m'a choqué. Dans cette campagne d'entre-deux-tours, ça a été extrêmement choquant. Renvoyer dos à dos, comme ça a été fait d'un point de vue républicain, le Rassemblement National et la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, Monsieur Bayrou qui s'adressait sur un plateau de télévision au Rassemblement National en leur disant en gros, il va falloir peut-être qu'on gouverne ensemble, ou pour remonter un peu plus loin dans l'histoire, Monsieur Darmanin qui expliquait à Madame Le Pen qu'elle était sans doute trop molle, au bout d'un moment, ça a un résultat politique. Et donc aujourd'hui, voir la majorité pleurer des chaudes larmes sur la progression du Rassemblement National, ils en sont les responsables directs.
Emmanuel Bompard, on continue à dérouler. Le 5 juillet, donc, effectivement, bien sûr, pas de vote de confiance pour Elisabeth Borne. D'ici là, vous espérez de toute façon qu'elle tirera les leçons de l'élection et donc démissionnera d'elle-même. Est-ce que vous utiliserez régulièrement la possibilité qui va vous être offerte de la motion de censure?
On verra pour quoi faire.
J'imagine que vous y avez réfléchi.
Il faut d'abord qu'on... Vous savez, on est lundi matin, et les résultats définitifs sont tombés sans doute à 2h du matin. Il faut qu'on fasse le point, il faut qu'on voit quel est l'état des rapports de force. Mais clairement, moi j'envoie le message très clair ce matin. Nous n'avons pas renoncé à gouverner ce pays. Nous considérons que les résultats des élections législatives démontrent qu'on est dans une crise institutionnelle, une crise démocratique d'ampleur. On pourrait parler par ailleurs de la participation et de l'abstention qui atteint encore des sommets. Et donc il y a un problème d'un système politique qui ne permet plus de gouverner.
Si vous croyez au miracle, peut-être,
pourquoi vous pouvez croire au miracle?
Parce que quand vous dites nous n'avons pas renoncé à gouverner ce pays, vous avez commencé par dire que personne n'a eu la majorité, ni même vous.
Résultat des élections législatives d'hier, je crois que sans doute dans ce pays nous allons être confrontés à une nouvelle situation de blocage et personne ne peut exclure un retour aux urnes dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Et notre objectif restera toujours le même, c'est de pouvoir proposer une alternative à ce pays.
Vous allez donc pousser en quelque sorte ou utiliser tous les outils qui sont en votre possession pour que le blocage soit tel qu'Emmanuel Macron soit contraint à la dissolution.
Mais on verra, mais si vous voulez, ce que je veux dire,
c'est. Non, mais j'essaye de comprendre ce que vous dites. Honnêtement, je ne crois pas dévoyer vos propos.
Non, mais je ne pense pas que je ne vous fais pas cette accusation. Je pense qu'il ne faut pas. Si vous voulez, le résultat d'hier, c'est un résultat.
Vous allez jouer le blocage.
Historique. Non, on ne joue pas le blocage, mais écoutez-moi. Le résultat d'hier, c'est un résultat historique. On ne va pas faire comme. On en parle pendant deux jours, et puis on revient aux petites affaires, aux petites combines, pour essayer de constituer une majorité artificielle qui ne correspond pas au résultat des suffrages. Donc il faut un changement. Qui soit un changement d'ensemble.
Rentrons dans la tambouille. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, voilà une question essentielle pour tous les Français. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. Le gouvernement d'Elisabeth Borne avait dit que dans les 15 jours qui viennent, ils allaient mettre le paquet pouvoir d'achat, comme ils disent, sur la table. Est-ce que ce paquet pouvoir d'achat, vous pourriez y travailler avec eux?
Mais encore une fois, il faut qu'on voit la réalité de ce qu'il y a dans ce paquet.
Alors, regardons, on sait déjà ce qu'il y a, par exemple, le chèque alimentaire.
Non, moi, je ne le sais pas encore.
Le chèque alimentaire, 100 à 150 euros par foyer modeste.
Est-ce que dans le paquet pouvoir d'achat, il y aura l'augmentation du SMIC? C'est une mesure qui est majoritaire dans la population. C'est une mesure que je défends. Moi, personnellement, je voterai pour l'augmentation du SMIC si c'est proposé quelque part. Pour l'instant, je crois que c'est pas l'intention du gouvernement d'augmenter le SMIC. Est-ce que dans le paquet pouvoir d'achat, il y aura le blocage des prix sur les produits de première nécessité?
Non, mais là, vous êtes en train de me dérouler votre propre programme, Manuel Bompard. J'imagine que le gouvernement, en tout cas, spontanément, va pas forcément proposer votre programme.
Très bien, mais ce programme, c'est un programme
qui est-ce que sur certains points, je vous redonne l'exemple du chèque alimentaire qui est normalement une des mesures phares de
mais
ce
moi,
paquet pouvoir d'achat.
Mais moi, je suis opposé au principe des chèques. Je pense que c'est une mais parce que vous donnez l'impression aux gens que vous leur donnez quelque chose, mais ce que vous leur donnez d'un côté, vous le reprenez ailleurs. Parce que quand vous donnez un chèque, c'est de l'argent public, d'accord? Donc c'est de l'argent qui sort du budget de l'État. C'est pourquoi la proposition que nous avons mise sur la table, c'est le blocage des prix sur les produits de première nécessité, de telle sorte que l'on fasse payer celles et ceux, notamment les supermarchés, les distributeurs, les intermédiaires, qui ont augmenté leur marge de manière conséquente depuis maintenant quelques mois. Donc c'est à eux qu'il faut prendre l'argent, pas prendre l'argent des Français d'un côté pour la rendre aux autres Français de l'autre. Donc, je pense que c'est pas comme ça qu'on va faire. Mais
ça veut dire que sur cette question du pouvoir d'achat, par exemple, clairement, on le voit, il y aura une situation de blocage.
Encore une fois, ça va dépendre des propositions qui sont mises sur la table.
Sauf s'ils prennent votre programme.
Non, mais j'ai entendu parler du dégel des points d'indice du fonctionnaire. Ah, très bien, pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant? Mais c'est dans notre programme.
Mais ça, vous dites
le dégel du point d'indice du fonctionnaire, je ne vais pas vous dire que je suis contre. Je le défends depuis plusieurs années.
On va prendre les choses à l'envers, Manuel Bompard. Comment est-ce qu'il pourrait faire pour réussir à vous faire participer à quelques signatures ou votes de textes de loi?
Je crains que ce soit précisément impossible, puisque le résultat des élections législatives ne donne à personne de majorité pour gouverner. C'est pourquoi je disais, vous ne pouvez pas seulement considérer qu'on passe à autre chose, maintenant on rentre dans les affaires, etc., sans réaction à la hauteur de la crise qui est le résultat de l'élection législative d'hier. C'est-à-dire qu'il faut un profond changement institutionnel. On ne va pas continuer comme ça avec une 5e République, où vous avez un président qui est élu au deuxième tour par défaut, qui ensuite n'a pas de majorité à l'élection législative, et puis avec des taux de participation de 50%, c'est-à-dire une personne sur deux qui se déplace pas. Donc si le président de la République veut être à la hauteur et entendre le message qui s'est exprimé hier dans les urnes, il faut tout changer. Et donc pas commencer.
Il faut tout changer.
Mais clairement, il faut tout changer. Ça fait de combien d'élections où au lendemain de l'élection, on dit, il y a qu'une personne sur deux qui se déplace, parfois même une personne sur trois.
En fait, si je vous entends ce matin, Manuel Bompard, il faut changer la première ministre, il faut changer le gouvernement, il faut changer peut-être les institutions.
Je crois, oui, qu'il faut
vous appelez
les
quoi à l'organisation d'une constituante?
Clairement, ça c'est le point qu'on a défendu dans cette élection.
Et s'ils ne le font pas, de toute façon, vous bloquerez la situation et à un tel point qu'il sera contraint de le faire.
Je comprends, mais mon projet, c'est pas de bloquer quoi que ce soit. Mon projet, c'est de faire en sorte d'améliorer les conditions de vie des citoyennes et des citoyens de ce pays. Mon projet, c'est de faire en sorte qu'on apporte des réponses à l'urgence climatique et environnementale. Mon projet, c'est de faire en sorte que la démocratie, elle fonctionne mieux dans ce pays, parce que c'est pas une démocratie saine quand il y a une personne sur deux qui se déplace pas pour aller voter.
Y compris face à vous. Puisque le département de la Seine-Saint-Denis, par exemple, qui est un département où la NUPES est arrivée en tête et a donné beaucoup de députés, et le département qui, dans le même temps, a le moins voté.
C'est vrai, bien sûr, mais on ne peut pas s'en satisfaire. Personne ne peut s'en satisfaire. Donc vous voyez bien que le sujet, ce n'est pas de retourner à des petites combinaisons. Et donc moi, mon sujet, ce n'est pas de bloquer ou de ne pas bloquer. Ce n'est pas ça mon problème. Mon sujet, c'est comment on améliore la situation. Et donc on prendra nos décisions, on choisira nos votes pour essayer de défendre l'intérêt des Françaises et des Français, pas des intérêts partisans ou des problèmes de combinaison politicienne, c'est pas le sujet.
Vous avez d'ailleurs dit, Emmanuel Montepin, nous n'avons pas renoncé à gouverner ce pays en parlant des prochains mois. D'ici là, il va faire quoi, Jean-Luc Mélenchon?
Jean-Luc Mélenchon, il a dit hier, dans son intervention, je change de poste de combat puisqu'il sera plus député parlementaire.
Il sera pas pour autant Premier ministre?
Non, mais on peut être ni député, ni Premier ministre et avoir une place centrale dans le combat. Je pense qu'il aura une place centrale. Et d'abord, faut quand même lui rendre hommage. Parce que je disais tout à l'heure, il y a 9 mois, tout le monde disait la gauche va être balayée de l'Assemblée nationale, de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a fait 22% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Et c'est grâce à ce résultat, c'est grâce à sa démarche qu'aujourd'hui, vous avez 150 députés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui rentrent à l'Assemblée nationale.
À quelqu'un du passé.
Ah non, pas du tout. Je lui rends hommage parce que je pense que c'est grâce à sa candidature à l'élection présidentielle qu'il a remis en quelque sorte la gauche dans une dynamique de progression. Alors certes, elle n'a pas été suffisante à l'élection législative, je ne vais pas vous dire l'inverse ce matin, mais je pense qu'il a créé les conditions pour que demain on continue à progresser. Et puis, il a permis aussi de faire rentrer, je voudrais le dire, à l'Assemblée nationale des profils qui manquaient à l'Assemblée nationale. Quand vous avez Rachel Keke, la première femme de chambre qui est élue députée à l'Assemblée nationale, elle va porter la voix des gens qu'on n'entend jamais, qu'on n'écoute jamais, qui ne sont jamais représentés à l'Assemblée nationale. Quand vous avez Laurent Alexandre, qui est un ouvrier de l'aéronautique, qui rentre à l'Assemblée nationale, on a besoin de ces profils, de ces 50% de la population, les ouvriers, les employés, qu'on voit jamais nulle part, qui ne sont jamais représentés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Qu'enfin, il y ait ces voix qui soient entendues, que ces problématiques-là soient portées dans l'hémicycle. Moi, je suis fier de siéger demain aux côtés de ces personnes.
Fier, donc, ce matin, Manuel Bompard, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous entrez donc à l'Assemblée. Vous êtes élu, très bien élu, de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Il est 8h53 sur AMC BFM TV.